Il est 2h à Paris, minuit, en temps universel, et c'est RFI que vous écoutez.
Mathis Limano.
Elon Musk tente l'apaisement avec Donald Trump. Le patron de X a retiré plusieurs de ses tweets rageurs, dont celui accusant le président d'être lié à l'affaire Epstein, du nom de ce financier soupçonné de trafic sexuel sur mineurs. Pas suffisant pour calmer Donald Trump, qui menace de nouveau son allié d'hier. Un déluge de feu s'est abattu la nuit dernière sur l'Ukraine, Kharkiv, deuxième ville du pays particulièrement touchée. Le maire parle de l'attaque la plus puissante depuis le déclenchement de la guerre. Au moins 10 personnes sont mortes. La fille de Paul Maillot, Rafa Noiran, fait appel à l'humanité du président malgache. Son père est toujours détenu à Antananarivo pour tentative de coup d'état et assassinat. Et puis en fin d'édition, plongé dans les catacombes de Paris à l'occasion de la Nuit Blanche 2025. Une trahison qui pourrait se payer très cher. Donald Trump menace Elon Musk de très lourdes conséquences si le multimilliardaire venait à soutenir financièrement des candidats démocrates contre des républicains lors des prochaines échéances électorales. Né d'un désaccord sur la loi budgétaire voulue par Donald Trump, les deux hommes s'écharpent publiquement depuis plusieurs jours. Elon Musk, ancien conseiller chargé de sabrer dans les dépenses publiques à la tête du DOGE, le département de l'efficacité gouvernementale. Mais quel avenir pour l'organisme? Depuis son départ, eh bien, coïncidence du calendrier, le DOGE vient d'obtenir, Edouard Maille, deux importantes victoires devant la justice.
La Cour suprême a autorisé le département de l'efficacité gouvernementale, DOGE, à avoir accès aux données liées à la sécurité sociale de millions d'Américains. Selon l'organisme, ces données sont nécessaires pour continuer sa mission de couper dans les dépenses publiques et éliminer les fraudes. Deuxième victoire pour DOGE, la Cour suprême devait aussi se prononcer sur une demande par une organisation pour obtenir des documents internes, une demande rejetée par la plus haute instance juridique du pays. Deux victoires alors que l'avenir du DOGE est incertain à cause du départ d'Elon Musk. Est-ce que Donald Trump supprimera cet organisme en représailles contre Elon Musk? Mais depuis plusieurs semaines, l'organisme a su s'implanter dans l'administration de manière durable, avec d'anciens responsables et employés qui ont basculé dans d'autres ministères ou agences, comme à l'énergie ou à l'intérieur, selon le New York Times. Idem pour l'agence de protection de l'environnement, où deux personnes associées au DOGE comptent continuer leur mission pour démanteler cette agence. Edouard Maille, Atlanta, RFI.
C'était l'unique résultat concret des pourparlers d'Istanbul. Russes et Ukrainiens s'accusent mutuellement de saboter l'échange de prisonniers qui devait se dérouler ce week-end entre les deux camps. Dans le même temps, la France franchit une étape dans son soutien à Kiev. Une entreprise tricolore de la défense va produire prochainement des drones directement sur le sol ukrainien. Pas de précision à ce stade sur l'identité de l'entreprise, mais le ministre français des armées parle d'un accord inédit. Inédit parce qu'un constructeur automobile français va aussi participer à ces lignes de production. Maxime Cordet, chercheur à l'IRIS et spécialiste des questions de défense européenne.
Il est plutôt inédit sur le sol ukrainien pour des Européens, en particulier pour les Français. On n'avait pas encore vu ça. Il semblerait que l'industrie automobile française arrive à s'arrimer à cet effort de renforcement drastique de nos capacités de production de matériel de guerre. Et donc, c'est assez nouveau pour la France qu'on assiste à un partenariat automobiliste-droniste, d'autant plus en Ukraine.
Qu'est-ce que un constructeur automobile peut apporter dans la production de drones ?
Alors, il peut apporter simplement ses compétences en matière d'ingénierie, de capacité de production, de montage industriel, d'assemblage aussi de certains composants. C'est un mouvement qu'on voit s'amorcer, en gros, depuis l'année dernière, et c'est surtout parti d'Allemagne, dans le contexte où le secteur industriel allemand est un peu en difficulté, et notamment automobile. Donc, on voit vraiment qu'il y a des liens à créer de plus en plus entre ces deux secteurs, et c'est totalement bénéfique d'enclencher ça pour les Ukrainiens.
Maxime Cordet avec Nicolas Feldman. La nuit dernière, la Russie a mené une attaque massive sur l'Ukraine. Les villes de Kherson et Kharkiv particulièrement touchées. Au moins 10 personnes ont été tuées et une vingtaine d'autres blessées. RFI 2h04 à Rome, une heure de plus à Gaza. 300 000 personnes ont défilé hier dans les rues de la capitale italienne pour dénoncer la complicité du gouvernement Meloni dans la guerre à Gaza, l'enclave palestinienne où 36 personnes sont mortes hier, notamment aux abords d'un centre de distribution alimentaire. Ça s'est passé dans le sud de l'enclave, proche de Rafah. 6 personnes ont été tuées. Des témoins sur place évoquent des tirs de sommation des forces israéliennes, d'abord en l'air, puis vers la foule venue récupérer des vivres. Cela fait 3 ans et demi que le franco-malgache Paul Maillot-Rafanouaran, 62 ans, est détenu dans la prison de haute sécurité de Madagascar. Cet ancien officier de la gendarmerie française est considéré comme le cerveau de la fameuse affaire Apollo 21, cette tentative de coup d'État et tentative d'assassinat du président Andry Rajoelina. Pour cela, il a été condamné en 2021 à 20 ans de travaux forcés. Élise, la fille aînée de Paul Maillot-Rafanouaran, a pris sa plume pour écrire au président malgache. Dans sa lettre, elle fait appel à son humanité et réclame le retour de son père en France.
Emmanuel Macron a récemment rencontré Andry Rajoelina, donc il a parlé avec lui de la situation de mon père. Malheureusement, leur rencontre n'a pas permis à ce stade d'obtenir le retour en France de mon père. Et c'est la raison principale pour laquelle j'ai décidé d'écrire cette lettre au président malgache. C'est tout simplement parce que je n'ai plus d'autre recours. Et je pense qu'il est capable d'entendre, certes en tant que chef d'État, mais aussi et surtout en tant que père, la détresse d'enfants qui sont loin de leur père et qui sont condamnés à observer dans la plus grande inquiétude sa souffrance. La difficulté, c'est que si rien n'est fait, mon père va devoir encore passer 16 prochaines années de sa vie en prison à Madagascar et en réalité il ne pourra pas survivre dans cette prison très très longtemps. Ses conditions de détention sont absolument inhumaines. Pendant 3 ans et demi, il est resté à l'isolement le plus strict dans une cave, dans le noir, sans accès à des toilettes, sans être nourri par la prison. Il a été récemment placé dans un dortoir collectif qui est surpeuplé, insalubre, dans lequel sa sécurité n'est pas garantie. On l'a encore constaté très récemment, mon père a fait une lourde chute dans des conditions qui sont encore inexpliquées. Moi, je ne souhaite pas revenir sur le passé, sur le contexte qui a conduit à la condamnation de mon père. Là, je m'adresse vraiment à Andry Rajoelina, dans sa capacité à distinguer, au-delà des décisions de justice, la situation humaine telle que je lui décris. Et aujourd'hui, ce que j'espère, c'est qu'il puisse permettre à mon père de finir ses jours près de ses enfants, que cela soit permis par un geste de grâce, ou un transfert de mon père dans le cadre d'une prison française.
Élise Maillot, jointe par Sarah Tetto. Nouveau coup de filet au Venezuela. Les autorités ont arrêté 26 personnes soupçonnées de participer au marché noir du dollar. Le billet vert, devenu monnaie de facto au Venezuela depuis 2018 et sa dépénalisation par le gouvernement. Après avoir fermé les yeux, le pouvoir vénézuélien repart à l'offensive contre le marché noir avec ses arrestations. Et puis cette information de dernière minute en Colombie. Miguel Uribe, candidat à la présidence de 2026, a été blessé par balle à Bogota. C'est le gouvernement qui nous le dit et qui qualifie cette attaque d'attentat. Le politicien de 39 ans est dans un état critique et une personne a été capturée par la police. La reine de la terre battue parisienne s'appelle Coco Gauff. À 21 ans, l'américaine s'est imposée contre la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka en finale de Roland-Garros. Ce dimanche, place aux hommes. Carlos Alcaraz tentera de défendre son titre face au numéro 1 mondial Yannick Sinner. Et puis je vous propose de s'engouffrer dans le sous-sol de la capitale française à l'occasion de la Nuit Blanche 2025. Rendez-vous culturel mêlant art contemporain, performance artistique. La cinéaste Valérie Donzelli, directrice artistique de l'événement, et son frère, le romancier Xavier Donzelli, ont conçu un parcours sonore dans les catacombes de Paris. Sous les pavés, Elisabeth Le Quéré.
20 mètres sous la place d'Enfer Rochereau, l'obscurité règne. Et les pas résonnent dans les galeries creusées, même la pierre. Ce sont les catacombes où reposent les ossements de 6 millions de Parisiens, déversés au XVIIIe et XIXe siècle, quand les cimetières de la capitale menaçaient de s'effondrer. Dans cette chambre d'écho naturel, Xavier et Valérie Donzelli ont conçu Âme Sentinelle, un voyage poétique au royaume des morts. Valérie Donzelli.
Étrange fantôme.
J'avais envie de penser et de célébrer nos morts parce que je pense que c'est important de penser à eux et de se rappeler qu'on est de passage et qu'il faut faire en sorte que le passage soit le plus beau possible en fait.
Je suis l'excuse de la mort.
Dans l'obscurité résonnent les poèmes de Nerval, Baudelaire, Éluard et Rimbaud. Le parcours dure une heure à déambuler, bercé par les cantates de Bach pour rendre hommage aux voix éteintes des morts.
La douceur de Bach pour refermer ce journal. L'installation Âme Sentinelle, c'était à voir dans les catacombes de Paris dans le cadre de la Nuit Blanche 2025.